Boulevard 102.1, la radio vivante. Qui vous fait vivre des trips à Vegas,
wow! Oui, c'est moi!
New York, San Francisco pour voir du baseball, du hockey, puis qui vous envoie un peu partout pour assister aux shows de vos bandes préférées.
Et quelqu'un à avoir quelques années de radio derrière la cravate, moi je me souviens pas d'avoir vu quelque chose d'aussi démentiel.
Puis qui organise même un show privé dans notre building pour voir Papa Roach. Pour tout ce qui se passe de gros, il y a Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ce soir, puisqu'on a le plaisir d'être avec la légende Dave Godette. Il est un humoriste qui roule sa bosse depuis plus de 25 ans en humour. Moi, ça me marque à chaque fois, déjà 25 ans. Dave Godette, salut!
Comment qu'il va, beau gosse?
Ça va bien, ça va bien. Merci d'être là avec nous autres. 25 ans déjà, puis moi, j'ai l'impression que je t'ai connu juste pendant la pandémie. Moi, c'est là que je t'ai découvert sur les, sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, ce gars-là, il a de l'air hyper human, il est friendly, il est drôle. Puis après ça, ben, j'ai été voir ta biographie, je me suis dit, oh boy, il roule sa bosse depuis pas mal plus longtemps que je pouvais le penser, là.
Ah, ça fait. Bon, pour moi, on dirait que ça fait juste 3 semaines. Ça fait 3 semaines, ça va bien. 3 semaines, ça roule. Mais ouais. Là, moi, je disais, ouais, c'est vraiment la pandémie, moi aussi. C'est vraiment la pandémie que, tu sais, on a découvert qui je suis, là, vraiment. Ouais. Là.
Mais tu faisais quoi? Tu faisais des stand-up en anglais? C'est pour ça du côté francophone, on n'avait pas nécessairement entendu parler beaucoup de toi?
Ben, j'ai tout fait en français, les émissions en route pour mon premier gala, les Grands Rires Comedy Club, ouais. J'ai tout fait comme j'ai. Moi, j'étais tout le temps à Canal D après un soir si proche. Fait que c'est quand même ça dans une carrière. Ouais. T'as l'émission Les Bibites dans le lit, un soir si proche, puis après ça, il y avait ma face. Fait que si t'écoutais pas, c'est tout ça. J'ai fait toutes ces affaires-là, toutes, mais j'ai animé toutes les soirées du monde possible. Mais je pense que c'est vraiment passé. C'est comme une hiérarchie, genre showbiz. Fait que tu sais, quand. Il y en a d'autres avant toi qu'il faut qu'ils percent, c'est ainsi ouais. De suite. Puis là, on dirait les gars-là, ils ont perdu la valeur, les gars-là, juste pour rire. Parce que si tu faisais un gars-là, tu sortais un show.
Okay.
C'est le même. Puis là, la game a tellement changé à cause de l'Internet tout que là, après ça, c'était comme tu faisais un gars-là, mais personne n'écoute la télé. Tu comprends? Fait que là, beaucoup de monde conservait safe. Fait que ça a beaucoup changé dans la game, je dirais. Puis moi, c'était vraiment la pandémie parce que toute ma vie, on dirait j'essayais. Tu sais, quand tu essaies trop fort, de percer, ça marche pas.
Ouais.
Puis là, j'ai juste lâché prise, puis là, c'est là que tout a marché.
Mais
j'ai
appris à lâcher prise. Mais c'est-tu ça que toutes ces années de dur labeur que tu as mises en place là, pour avoir une carrière qui est florissante en humour, c'est-tu le fait que tu as bûché comme pas possible, ben des fois, pas mal plus fort que les autres pour en arriver là où tu es aujourd'hui, où tu arrives, puis que les gens commencent à découvrir un Dave Godette qui dit waouh, OK, il a une belle personnalité, il est le fun, il est friendly, mais tu étais déjà rodé, ça a pris plusieurs années. Mais là, présentement, c'est ton temps, puis tu vends des billets pas pire à la grandeur du Québec. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est-tu le fait que tu as mangé ton pain noir?
Ben, je pense que l'expérience que j'ai accumulée à travers les années, ça se perd pas.
Ouais.
Fait que c'est tout ça, là, t'sais. Mais c'était vraiment trouver j'étais qui comme personne, t'sais. C'est vraiment ça. T'sais, parce que souvent, au début, je faisais comme beaucoup d'humoristes qui viennent d'ailleurs. J'étais l'anglophone qui a appris le français. C'est comme un Français de France qui débarque ici. Mm-hmm. Tu sais, quand l'humour ethnique un peu, tu sais. Fait que j'avais commencé un peu de même en jouant comme l'anglais. Puis après ça, je suis le gars qui dansait avec un chapeau. Puis là, c'est que tout le monde est comme, OK, t'es bon, mais t'es qui? C'est tout le temps ça, tu sais. Fait que c'est là que je pense, c'est quand j'ai juste décidé d'être moi-même, puis même moi-même me découvrir en tant que personne, puis voir mes limites jusqu'à où je peux aller, puis dire à voix haute ce que tout le monde pense, puis ce que je pense. Puis tu sais, c'est là que je pense, c'est là que ça a juste... Tout marche, puis la maturité aussi, je pense.
Puis le style américain de stand-up comique, es-tu pareil comme le style qu'on peut développer au Québec? Est-ce que c'est très apprécié, le style américain au Québec?
Quand même, beaucoup d'influence. C'est ouais. Sûr, c'est parce que c'est le plus gros marché du monde, là, c'est aux États-Unis.
Ouais.
Donc, c'est sûr, il y a une grande influence. Les Français de France, eux autres, s'inspirent constamment des humoristes américains. Fait qu'eux autres, même, ils copient les numéros. T'sais, pour eux autres, c'est normal. T'sais, ils ne voient pas ça comme du plagiat. Ils disent, oh non, mais on leur porte respect. T'sais, en faisant leur numéro complet, mot par mot. T'sais, puis ils font de l'argent avec ça. T'sais, c'est comme... t'sais, ça, c'est de la France. France. Mais ici, au Québec, l'humour est quand même très avancé. T'sais, comme l'écriture, je vois des humoristes, c'est, là, t'es comme... Il sort des affaires, t'es comme, man, tu peux faire 6 minutes sur des Q-tips, sérieux? c'est ça que j'adore, c'est les numéros de gala, c'est comme, tu pognes une thématique, mais ton toile d'araignée, tu piges toutes les idées possibles,
ouais.
Et là, tu fais un numéro avec ça. Je suis comme, hey, wow. Puis nous autres, en anglais, c'est link punch. T'sais, on fait, on a premise punch, t'sais, on y va comme des mitraillettes. Mais cette 6 minutes de Q-tip, ben ouais, on donc, même.
Ils sont capables de le faire. Tant qu'il y a de la réaction dans la salle, c'est le fun. Mais des gens qui volent des jokes, là, je me souviens d'un humoriste européen qui volait des jokes des fois aux États-Unis, des fois même aux humoristes québécois. Ça doit être fâchant, ça, quand vous les voyez passer. Tu sais, un gars comme Robin Williams là, a été un excellent humoriste aux États-Unis, ouais. Mais c'est un gars qui se cachait dans une salle à New York pour entendre les petits jeunes qui commençaient puis leur voler des jokes. Je veux dire, c'était épouvantable, ça, là.
Ouais, ça, j'ai entendu la même affaire, tu sais. Mais c'était Gad Elmaleh aussi qui faisait ça. Il a volé Jerry Seinfeld, tu sais, comme son show complet, tu sais. Fait que, je sais pas, je pense qu'à un moment donné, c'est comme tu deviens tellement avec une notoriété ou que tu as tellement de pression de performance ou que, tu sais, ton prochain show, il faut que ce soit à sa coche. Fait que là, tu dois voler les autres.
Ça a-tu...
Je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est un aspect psychologique, genre de l'anxiété de performance, genre. Ça... C'est tellement connu, et puis Robin Williams, on va se dire, c'est Robin Williams, ouais. Les films, là, Peter Pan, Patch Adams.
C'est un géant. Mais juste de savoir qu'il faisait ça, ça m'a déçu un peu de l'individu, parce que c'était un individu qui était à la base extrêmement créatif, mais de savoir qu'un gars aussi créatif que ça, qui jouait dans la Ligue nationale de l'humour à la grandeur des États-Unis, sont 340 millions aux États-Unis, puis que lui disait, ouais, malgré ça, je vais me mettre une calotte, je vais me mettre un gilet capuchon, je vais aller faire un tour dans la salle pour aller pogner des jokes de jeunes humoristes. Peut-être que c'est un manque de confiance en lui. En même temps, on a tous ce sentiment-là d'imposteur. Je peux pas croire que lui, il l'avait, mais visiblement, il volait des jokes. Ça m'avait grandement déçu du personnage. C'est le fun quand t'as un humoriste qui est là, puis il développe son personnage, puis il développe ses propres jokes. Ben oui, tu peux avoir de l'inspiration d'ailleurs, mais quand tu changes pas tes phrases, quand tu changes pas les mots, puis c'est les mêmes, puis t'es capable de les superposer, puis de voir que, voyons donc, c'est le même timing et tout ça, je veux dire, ça, c'est cruel pour les jeunes qui ont parti ce type de joke-là. Là.
Ouais, puis en plus, nous autres aussi, c'est arrivé moins pour un autre humoriste, où qu'on a pogné le même flash sur une joke d'actualité, t'sais. Fait que disons, le nombre d'êtres humains qu'on est sur la planète, t'inquiète, penser la même affaire, ça arrive souvent. Genre, tu sais, qu'on va dire qu'il se passe de quoi dans l'actualité. Je me souviens, c'était une joke de Red Bull, le gars qui tombait du ciel, là, qui a sauté du stratosphère. Ouais. Puis le manant qui tombait, puis je suis comme, il est mort. Je disais, tu sais, le gars, il fait quoi après ça? Tu sais, t'as vécu tellement un rush d'adrénaline. Ce gars-là, tu peux pas dire, hey, dimanche, on va toujours au mini-pot.
Non, ça marche pas de même.
Fait qu'on avait le même gag, mais lui, en plus, il l'avait fait à un gala. Fait que vu que c'était télévisé, fait que moi, il fallait que je scrape la joke parce qu'il était déjà. Fait qu'il y a des affaires aussi, un respect en tant qu'humoriste de, ouais, ça ressemble beaucoup à ma joke ou même un jeune, il pensait qu'il avait créé un numéro, mais que c'était mon numéro. Mais lui, tu sais, des fois, c'est inconscient. T'es comme, ah, Chris, moi, je pensais que j'avais l'idée, mais finalement, c'était la tienne, j'avais vu il y a 6 ans. Parce qu'il m'a écrit, hey, ça a l'air, je fais ton numéro. Fait que je montre le numéro et c'est pareil. Fait qu'il fallait qu'il scrape. T'sais, parce que personne ne veut se faire accuser de plagiat, mais ça arrive dans les consciences que, ah, Chris, ça se pourrait, tu sais.
Puis ça, c'est une question que je te pose, Dave Godet. Ça se vend-tu des jokes?
Oui. Ah, oui, des auteurs, ils écrivent des jokes, toutes les quêtes, ça se vend.
Ah, oui. Fait que, on pourrait approcher un Dave Godet. Là. Hey Dave, j'ai entendu une joke que tu as faite à telle place, puis j'aimerais ça le reprendre pour l'Europe ou j'aimerais ça le reprendre pour les États-Unis. Toi, tu peux vendre ça sans aucun problème.
Ben, moi, personne, je pense, va vouloir acheter mes jokes. t'sais, ça va dans le contexte du personnage. T'sais, si tu n'as pas un accent, si tu n'as pas comme, une drive derrière le matériel, comme, personne ne va acheter mes jokes à moi. Là.
Ouais.
Mes jokes sont assez flyés, merci. T'sais. C'est pour ça que moi, j'écris pas vraiment des jokes. J'écris vraiment des anecdotes personnelles. Fait, personne ne peut dire que j'ai pris de quoi d'un autre ou inspiré d'un autre. C'est ma vie, ça. J'ai vécu ça avec mon chum, j'ai vécu ça, ça, tu sais. Fait que les anecdotes, c'est comme un safe zone, je trouve, dans la création. Et, tu sais, l'observation, c'est tout le temps comme... mais dans ce que je fais avec mes vidéos TikTok puis Facebook, tu sais, tout, là. T'sais, ça, c'est comme l'observation. Fait que, tu sais, je fais une vidéo, toute l'équipe perfect, puis après ça, si je suis capable de faire un gag avec, je le fais, tu sais.
Tu as commencé comment? Tu disais que tout à l'heure que tu avais fait en route vers mon premier gala, mais Dave Godet, ouais, là, qui voulait devenir humoriste, ça a commencé quand? Les gens t'ont-tu dit, t'es fou? Il
y a pas à 13 ans. À 13 ans, ans déjà. Le plus drôle, j'ai fait un numéro de 12 minutes de Robin Williams. Fait que j'ai fait son show à lui. Fait que je sais pas si c'était son show que je faisais ou un show qu'il a copié. Ben, ouais, c'est ça. J'ai pris un bout de stand-up de Robin Williams quand j'avais 13 ans, un talent show à l'école. Puis j'avais fait ça devant tout le gymnase. Tu sais, tout le monde, tu sais, des jeunes qui jouent à la guitare, qui jouent la flûte, whatever. Moi, je fais du stand-up et je me souviens toujours, je me suis fait bouer. Après 5 minutes, et ma tante est en train de filmer avec le vieux VHS, avec les cassettes qui rentraient dedans, tout. Puis elle capotait pour moi. Les jeunes populaires, ils bouaient. Puis j'ai arrêté une seconde. Puis j'étais comme, je fais quoi? Puis là, j'ai juste continué. Fait que j'ai vécu le pire chose que je pouvais vivre en tant que dans une carrière d'humoriste. Je me suis fait bouer en partant, je dis que j'ai survécu ça, le reste
c'est
une joke. T'sais.
Ouais, mais c'est un beau message que tu envoies là, parce que ton premier essai, ça n'a pas été comme tu pensais que ça allait être. Tu t'es fait huer par les gens qui étaient dans la foule, mais au moins tu as continué. Puis après ça, tu t'es dit, non, c'est pas vrai que cet événement-là qui est arrivé une fois dans ma vie, ça va avoir un comme impact dans ma vie que je ne réaliserai pas mon rêve. T'sais. Je veux dire, c'est une force de caractère que tu avais déjà chez toi. Moi, honnêtement, parler devant les gens, c'est une corvée, OK? Je l'ai faite là, dans les dernières années parce que j'avais pas le choix. Moi, je me sens à l'aise dans mon studio avec mes chums, puis je reçois des gens, j'apprends à les connaître et tout ça, mais j'ai plus l'impression d'être dans un studio de radio. Toi, quand tu es dans ta foule, quand tu es sur le stage, tu vois la foule devant toi. Moi, je veux jamais me retrouver dans la situation où toi, tu es. Je n'ai pas ce courage-là ou je n'ai pas ce talent-là. Puis je l'ai fait dans les dernières semaines. Heureusement, c'est un show de lutte que je faisais. Fait que je jouais le rôle d'un bon. Fait que je me suis pas fait huer, là. Mais c'est un talent que t'as. Puis à 13 ans, je trouve ça formidable. J'en ai un, moi, qui est capable de jaser devant les gens. J'en ai un autre qui est un peu plus comme moi, qui est très timide. Mais l'important là-dedans, c'est que dans ton cas, t'as continué quand même à vouloir rêver d'être un humoriste. Y avait-tu des humoristes qui te marquaient, toi, quand t'étais jeune, un francophone ou anglophone?
Moi, j'étais très, comment je peux dire, mes grandes influences, c'était Def Comedy Jam. Fait que Def Comedy Jam, c'était une émission avec Steve Harvey, Martin Lawrence, et tous les humoristes noirs. Tu sais, la culture de l'humour, stand-up, vraiment, là, c'est là que j'écoutais ça, tu sais, le côté raw. Tu vois, tous les gros qui étaient là, Chris Tucker,
ouais,
you name it, tu sais, ils ont tous commencé là.
Dave Chappelle.
Dave Chappelle, toute la gang, c'est quoi l'autre? You don't understand. Comment il s'appelait?
Russell Simmons?
Ouais, toute la gang, ouais. Je les ai tous vus. Fait que moi, c'était Eddie Murphy, Delirious. Tu sais, tout ça, là, c'est comme les classiques, là. Les classiques, classiques. Fait que mon grande influence, je pense, même quand la manière que je bouge sur scène, il vient beaucoup de cette culture-là. Fait que je pense que c'est ça qui me démarque. En plus, je suis un danseur. Fait que c'est la manière que je bouge. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que je suis comme je suis comme un noir dans le dedans, mais je parle comme, tu sais, je suis blanc. C'est ça, c'est comme le mélange de ça avec l'attitude, tu sais.
T'es comme le Elvis Presley de l'humour.
Ben...
Quand Elvis Presley...
Déjà là, non, la légende, c'est quand même fucked up, là, tu sais, vivre avec ça, là. Déjà là, hey man, c'est quelque chose, ouais, artistique, vivre avec un autre même, parce que, mais il faut pas que je me plante.
Parce que quand Elvis Presley est arrivé à la radio, les gens pensaient que c'était un noir. Puis quand, ouais, on décrivait de la façon dont il dansait, les gens pensaient que c'était un noir. Mais là, les gens arrivaient dans la salle, mais voyons, c'était un blanc qui joue de la musique de noir, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, toi, ouais, tu faisais de l'humour noir, mais en étant blanc, anglophone, puis tu faisais des shows en français. T'étais-tu anglophone au départ dans tes shows? Ben, tu t'as switché
tout
en anglais, ouais, au départ. Okay.
J'ai commencé en anglais. Fait que je faisais déjà Yuck Yuck's Comedy Club, toute l'équipe, je faisais tout mon stand-up en anglais. Je faisais beaucoup de personnages aussi, je faisais des imitations. T'sais, je faisais Michael Jackson, je dansais pareil, là, ouais, avec le chapeau et tout. Billie Jean, classique.
Tes premières pays, ça ressemblait à quoi dans le milieu de l'humour?
Oh, wow, les pays, c'était la bière. Oui. Bruce Lemon, puis t'as du stage time. Puis la plupart du temps en anglais, c'est il fallait que tu vendes des billets pour performer.
Fallait que tu vendes tes propres billets pour performer, hey boy. Okay. Ouais.
C'était vraiment, c'était raw de même. Là, on passait des flyers, you name it. T'sais, dans les fenêtres de char, comme le bon vieux temps, là, quand il n'y avait pas d'Internet, là, c'était vraiment de même. Ouais. Fait que...
Mais quand tu parles à des jeunes humoristes là, qui veulent faire la même job que toi maintenant, puis tu leur dis par où est-ce que tu es passé, ces gens-là doivent dire ben non, moi, je ferais jamais ça. Là. Je vendrais jamais mes propres billets. Là.
D'ailleurs, il y a comme aujourd'hui, il y a comme des codes d'éthique là, où ça se fait plus, ça.
Ouais.
C'est comme aller aux soirées, le producteur à faire ça. Là, mais non, c'est même les jeunes, des fois, je suis comme. C'est là que je réalise, ça fait longtemps, Nesti, que je fais ça, quand je vois tout comme l'évolution. 25 ans, là, t'en vois, ça fait c'est deux décennies. Là, eux autres, ils n'avaient même pas un téléphone. Ils ont tous des cellulaires. T'sais, dans le temps, là, c'est comme tu écoutais le répondeur. La petite cassette, là, t'es comme oh, « j'ai-tu un booking, j'ai-tu de quoi? » c'était comme une autre époque. Là.
T'as-tu l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes l'ont peut-être un peu facile?
Ouais, facile, puis ils veulent tout de suite. Là. C'est ça, la nouvelle génération.
Ouais.
Ils veulent tout être connus en claquant des doigts. Là. Ils veulent tout être un peu d'attention, puis les endorphines dans le cerveau, là, c'est parti comme un malade mental, puis ils pensent « oh ça y est, j'ai fait une vidéo virale. » Je sors un one-man show, tu sais, mais c'est pas le même, ça marche.
Non. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Y a-tu des humoristes, toi, dans ta jeune carrière, quand t'as commencé, qui étaient là pour te tendre la main puis essayer de te montrer un peu le chemin? Ou parce que, tu sais, je jasais, il y a de ça quelques mois déjà avec un gars dont je vais taire le nom, qui a commencé l'humour très tard. C'était comme une deuxième ou une troisième carrière dans son cas, puis il disait à quel point ça pouvait être cruel. Là. Puis dans son vocabulaire à lui, il n'y avait rien, aucun humoriste qui lui tendait la main jamais. Là. Puis pourtant, le gars, il abandonne pas. Là. Toi, dans ton cas, y a-tu des gens qui t'ont aidé?
J'essaie de penser. Mike Ward m'a aidé beaucoup.
Ouais.
T'as pris comme dans les animations de ses tournées, ses affaires-là de même, là, quand j'animais pendant toutes les soirs. Mais tu sais, je sais pas si. Moi, c'était plus moi qui tendais la main aux autres. C'est ça qui est drôle. Fait que j'animais, fait que, même, je me souviens comme Phil Roy. C'est moi qui ai donné son premier headline. Son premier 30 minutes. Puis on en parle encore. Il dit qu'est-ce que tu crois, c'est toi, man? Tu l'équipes. Plein de monde, c'était leur première fois sur scène. C'était moi qui les accueillais sur scène pour la première fois, qui les présentait. T'sais. Fait que je dirais, c'est plus moi qui ai tendu la main. Puis j'ai tout le temps été comme le côté leadership là-dessus. Là.
Ouais.
C'était comme l'enfer.
Mais c'est un milieu qui est très compétitif parce que Québec, c'est pas énorme.
Il y a beaucoup de gens qui oublient que c'est compétitif. T'sais, on est tous des travailleurs autonomes puis on veut tous la même poste. C'est ben, ça qui est tough. Là. On est tous des travailleurs autonomes. Mais il y en a qui. C'est qui que j'ai écouté qui avait dit ça, que j'ai trouvé ça brillant? C'est Chris Rock qui avait dit à Kevin Hart. Il dit le truc pour percer, là, c'est plus tu tiens avec, disons, tes collègues. Là. Dans le fond du comedy club, tu prends une bière après, tout l'aspect social. Plus tu passes de temps avec eux autres, ben, ta carrière n'avance pas. Fait que quand tu arrêtes de te tenir avec les autres, puis tu fais ton estime propre affaire, c'est là que ça explose. T'sais, parce que les autres vont continuer, ils sont encore dans le fin fond. Là.
Ouais.
Ils jasent encore là, de leur set de ce soir-là, comment ça, tu sais, tout. Fait que c'est surtout ça aussi où que moi aussi, je pense, dans ma carrière, j'étais tellement concentré à avoir comme l'approbation de mes collègues, l'attention des collègues. « Es-tu de gala de un? » Tu sais, comme on dit, comme licher le cul, là, l'expression, tu sais. Comme tout le monde se liche le cul tout. Puis c'est juste quand moi, j'ai arrêté de licher les culs, j'ai juste fait mon propre affaire. J'étais comme « Oh, this is it », tu sais. Je faisais mon propre contenu, la pandémie, mes propres affaires, mes propres émissions Zoom. Tu sais, je créais mes propres opportunités.
Ouais. Ah, le titre du podcast ce soir, cesser de licher des culs et avancer selon Dave Godette.
Ouais, ouais. C'est bon ça.
ça va être très, très bon. Ah non, je trouve ça donc, intéressant.
Arrête d'attendre que les autres te donnent les opportunités que tu es capable de créer toi-même. T'sais. Puis je pense que c'est ça la preuve que j'ai montrée au milieu. Puis même les diviseurs de salles de spectacle sont comme. Eux autres, ils attendent autoproduction. T'sais, j'autoproduis mon show, mais eux autres pensent une pièce de théâtre à chier. Là. Mais quand j'arrive, c'est avec tout le gros décor, les feux d'artifice, tout le kit, l'éclairage de cycle de soleil.
Ouais.
C'est comme, yo, OK, attends, là. T'sais, c'est comme énorme. Puis c'est comme, OK, all right. Fait que c'est ça l'autoproduction. Mais c'est pas tout le monde qui fait la même affaire, mais c'est comme j'ai mis une norme et j'ai ouvert des portes pour d'autres aussi à s'autoproduire.
Le temps que tu perces dans le milieu de l'humour et que tu sois capable de vivre de ton métier, t'as-tu fait d'autres métiers au travers de ça?
Ben oui, j'ai travaillé Canadian Tire. J'ai travaillé comme aviseur technique au garage.
Ouais.
J'avais fait ça. Puis même pendant la pandémie, j'ai travaillé là. Fait que toute l'argent que j'ai fait là-dedans, ben, moi, j'ai fait de l'automobile.
Est-ce que c'était dur, ça, de faire les deux? Parce que d'un côté, tu étais sous les projecteurs, puis de l'autre côté, tu étais un gars ordinaire qui faisait sa propre vie puis qui devait gagner son argent.
Ben, j'ai quand même vécu de ça tout le long jusqu'avant la pandémie.
Ouais.
Je vivais que de ça. T'sais. Ben, vivre, c'est un gros mot. Là. C'est comme je faisais le show, puis avec l'argent que je dépensais, ben, je me pétais à la face. c'était ça pendant un bon 5 ans. Là. Ouais, j'étais pas sur une bonne lancée là.
Non.
Mais ouais, j'étais dans la consommation solide. Là, c'est pour ça. J'étais trop le rôle de party guy. C'était ça. Là. Moi, je pensais que c'était ça. Il en fallait un dans le showbiz, puis ça allait être moins. T'sais. Ça allait être moins Van Wilder, mais ça allait être sabrer des bouteilles en robe de chambre sur le bar de l'hôtel. Là. C'est pas bien vu par tout le monde. Est-ce que ça me fait rire? Pareil, j'en reviens pas, j'ai fait ça.
Non, mais tu l'as fait, t'es passé au travers, puis aujourd'hui, tu sembles en être libéré. T'as-tu complètement arrêté cette consommation-là de A jusqu'à Z?
Ouais, ça, j'avais pas le choix. Là.
Ah ouais?
Ouais, là, non, c'est ça. Là. T'sais, il m'est arrivé, de temps en temps, de prendre un rum and coke, whatever, là, mais tu sais, même là, c'est dangereux. Je suis un alcoolique toxicomane, tu sais, fait. J'ai fait des meetings, toutes les quêtes, j'allais chercher mes jetons d'un an, puis you name it, tu sais.
Ouais. Donc, dès que tu prenais un verre, tu partais comme une fusée, là.
Ben ouais, mais tu sais, j'étais malheureux. Tu sais, fait que c'était ça l'affaire. T'sais, aujourd'hui, je suis heureux, fait que j'ai moins de goût. Tu sais, j'ai plus cette pulsion-là parce que j'ai plus à perdre qu'à gagner. Tu comprends, là, tu sais.
Ouais. Puis qu'est-ce qui a déterminé que tu devais aller chercher de l'aide à quelque part? Y a-tu un moment dans ta vie? Parce que, tu sais, nous autres, on est tous entourés de gens qui peuvent avoir des problèmes d'alcool ou encore des problèmes de drogue. Puis, tu sais, moi, en ayant déjà eu des gens, des AA, ils m'avaient donné quelques conseils, là, c'est-à-dire, tant aussi longtemps que ces gens-là ne sont pas au fond du baril, tu ne pourras jamais les aider. Là. Tu peux les accompagner pour que ce soit sécuritaire, mais pour le reste, ça doit partir d'eux. Toi, y a-tu un événement qui s'est passé dans ta vie où tu as dit « OK, là, c'est fini, c'est terminé, je m'en vais. »
Ouais, mais ça faisait déjà comme des années que j'essayais. Je faisais comme un mois, puis après ça, je rejetais. Après ça, comme 2-3 mois, je rejetais. T'sais, c'était comme mon max, tu sais. Fait qu'en même temps, j'étais tellement dans les bars à tous les soirs en tant qu'humoriste, tu sais. Fait que c'était l'environnement aussi qui n'aide pas du tout quelqu'un comme moi. Puis j'étais, tu sais, je pourrais dire, dans tout le showbiz, je suis là qui a eu ces problèmes de consommation-là. Tu sais, fait que c'était l'alcool et la cocaïne. Tu sais, c'est comme les deux allaient ensemble. Tu sais, aujourd'hui, j'en ris en show. Tu sais, moi, c'est comme du spaghette. Tu sais, moi, je mangeais pas juste du spaghette, il fallait de la sauce aussi avec. Là, c'est plat.
Ouais.
Si t'as pris les deux ensemble, tu sais. Fait que c'était toujours l'association dans mon cerveau. Fait que quand je devenais chaud, il fallait que je trouve de quoi, tu sais. Fait que l'élément déclencheur, je pourrais dire, c'est un moment donné, pandémie, fait on est quoi, un mois et demi dans la pandémie, tout. Et je vivais encore comme si j'étais dans un bar, mais les bars étaient fermés. Tu sais, mais là, je consommais encore, je buvais comme un malade, tout le kit, là. Je commençais chez Canadian Tire. Là, je me souviens, c'était le combat de Mike Tyson. Il avait fait un genre de scrimmage avec je me souviens plus qui. Mais le combat de Mike Tyson, c'était ma dernière rechute. Je rentre à la maison, il est comme 2h30 du matin, et je suis en train de pisser sur le bord de la toilette, et ma blonde me regarde, puis elle me dit, là, je t'écœure. Puis là, c'était comme le regard de, OK, j'ai perdu assez de blondes dans ma vie à cause de cette petite maladie-là. Là, je dis, OK, perfect, c'est fini. Fait que c'est là que j'ai fait mon premier un an, mon gros stretch. Puis j'ai réglé bien des démons, puis bien des affaires, puis apprendre beaucoup sur moi-même, puis apprendre à avoir confiance en moi aussi. J'avais aucune estime finalement, j'avais aucune confiance en moi. C'était toute une illusion, c'était tout un personnage que je nourrissais, mais le vrai Dave, c'est là que j'ai découvert, OK, j'ai accompli des petites affaires. OK, là, ça, je suis capable. Ah, j'ai fait une semaine à la job, je rentre à l'heure. Qu'est-ce? OK, finalement, je suis capable, je suis pas de merde. Tu sais, je suis capable de devenir mère. Puis là, c'était plus, puis plus, puis plus. Puis là, je suis devenu comme, c'est ça ma nouvelle obsession. Dans ma tête, c'est OK, c'est quoi le prochain step? C'est quoi le prochain projet? T'sais, comme là, je fais Légende, la tournée de Légende, mais cette année, j'ai capté un show, Nowhere Maîtresse, où je trompe mon show un soir. Fait une grosse production captation. Je fais un autre show Crowdwork. Puis là, je fais la place belle. C'est comme tabarnak, OK. Là. C'est pour ça que je dis, je brûlais mentalement. Je suis comme, OK, après la place belle, là, c'est un break. C'est sûr que c'est un break. J'ai accompli beaucoup. Là, c'est le temps de me donner un cadeau. Fait que je vais être assis, sur mon terrain, être au soleil, puis je me lave pas pendant 4 jours. Je crois que c'est rien. Moi, je fais rien.
Mais je trouve ça le fun que tu te permettes d'en jaser parce que, tu sais, moi, j'ai connu les années 80 un peu, connu les années 90. Il n'y a pas personne qui sortait pour dire, hey, moi, j'ai connu l'enfer de l'alcool, j'ai connu l'enfer de la drogue. Fait que si tu étais là-dedans, tu n'avais pas de personnes ressources qui te parlaient de leur succès suite justement au fait qu'ils avaient arrêté l'alcool ou la drogue. Puis je suis persuadé, Dave, qu'à chaque. Parce que c'est pas la première fois que je t'entends parler de tes anciennes problématiques, là. Je suis persuadé que tu aides énormément de gens. Quand tu parles de ça, puis tu leur donnes un brin d'espoir en disant « OK, regarde, il n'y avait rien qui allait dans ma vie. J'écoute ce que ce gars-là dit. Effectivement, moi non plus, il n'y a rien qui va dans ma vie. » Puis, tu sais, il y a eu un point de non-retour, puis tu as décidé de t'en sortir. Puis il y a un événement positif qui en est... Bien, il y a des événements positifs qui en sont ressortis de ça. Je te félicite de le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, puis vous le faites. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent... s'associer avec vous autres en vous regardant en disant « OK, ben si Dave Godette peut le faire, je peux le faire », en espérant qu'il m'arrive à peu près la même chose si je mets les mêmes efforts.
Ben, la première année, mon inbox, là, Messenger de ma page, tu sais, puis je jasais avec tout le monde, mais des fois, c'était quand j'avais trop de messages, tu sais. Fait que déjà là, tu sais, ma femme était enceinte, je savais que je suis Canadian Tire, je venais d'ouvrir un comedy club, tu sais, c'était comme trop en même temps que la sub des tout. Fait que c'est comme, je vivais déjà assez de pression, puis c'est... Je me sentais comme si j'étais devenu le porte-parole, genre, de la sobriété. Puis c'était comme un rôle, je suis comme ça, c'est dangereux à jouer avec quand t'es une personnalité publique, tu sais. Puis après 1 an, 2 mois, j'ai rejeté un soir, j'avais pas fait de drogue, j'ai juste jeté une game de hockey, puis juste fucking, let's go, man, prends un couple de shots, eu du fun le lendemain, continue un couple de mois encore, tu sais. Mais c'était là que j'étais comme, OK, cette pression-là, je ne veux plus, le monde me demandait des trucs, je donnais des trucs, tout. Mais après un moment donné, j'ai juste dit, quand tout mon entourage, OK, je ne suis pas le porte-parole de la sobriété. Mm-hmm. Je vais en parler, je vais donner des trucs, mais c'est tellement chacun son cheminement. Puis moi, le mien, c'était long parce que puis c'est une maladie à vie. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est le cerveau, le crosseur, il est vite. T'sais. On apprend vite. Mais le mien, il est des fois, je suis comme, oh tabarnak, il est rapide, anesthétique. Parce que si je dis, OK, fais pas ça, mais lui, j'ai déjà comme 8 réponses de pourquoi je devrais. Je ne sais pas si tu me suis, là, le crosseur devient tellement évolué là, comme un Pokémon. Là. Genre, ce que je veux dire, c'est comme là, il est niveau 71, style crosseur en moins. Tu sais, fait que c'est toujours le combat constamment avec soi-même, tu sais. Fait que les gens, c'est carrément ça que je dirais, c'est de faire attention puis essayer d'être toujours plus vite. Puis, comme je dis, c'est quand tu as accompli des petites affaires que ta confiance pour ton estime, il augmente. Puis le monde me dit, ah, j'ai soif à soir. Mais commande-toi une pizza. Moi, c'est ça que je dis aux gens. Commande-toi une pizza. T'as pas soif, style, quand t'es bourré, mon gars, d'une poutine puis une pizza sur ton divan, là. Tu bouges plus, là. T'écoutes un film, t'es comme « Ah, OK. »
Je comprends. Tu dis que tu t'es ouvert...
Des années de AA, du monde qui ont écrit des livres, Dave Godette, « Mange une pizza.
» Exact.
Socrate lui-même, direct de suite.
T'as dit tantôt que tu t'étais ouvert un comedy club?
Ouais.
Ah, ouais. Ça faisait longtemps que tu avais cet objectif.
Patriote comedy club à Saint-Eustache.
OK. Ça faisait longtemps que tu avais cet objectif-là?
Bien, j'ai animé là depuis 2012.
Ouais.
Puis là, pendant la pandémie, on a décidé d'ouvrir ça. Fait que là, ça roule toujours. C'est Stéphane Poirier puis Marco Métivier. C'est les mardis puis les vendredis. Et en plus, on fait de la location de One Man Show.
OK. Mais pendant la pandémie, la pire des choses à faire, c'est de penser à ouvrir une business.
Exact. Puis... C'est moi le fou. Tout le monde rit de ma gueule, mais je suis quand même. Tout le monde, les business fermes, moi, on en ouvre. Parce que, tu sais, eux autres, ils avaient un bar, mais mes partners, tu sais, c'est le billard, le Patriot, tu sais. Puis on a une salle cabaret, mais pendant la pandémie, ils ont tout rénové. On a mis un mur en briques noires, le néon, tu sais, toute l'équipe de vrai comedy club, tu sais. Fait que le bordel, nous aussi, nous ont aidés un peu là-dedans. Tu sais, puis aussi, faire sûr que, tu sais, c'est pas pareil, là, tu sais, tu comprends, je veux dire, il faut qu'on ait notre propre identité. Puis, man, c'était juste un grand succès. Puis aujourd'hui, au-dessus de 10 000 personnes sont passées déjà. Puis, oh non, on est bien fiers, là. Puis, belle équipe.
Puis vous accueillez des humoristes de la relève, des humoristes qui sont en rodage?
Relève, rodage. On les a tous eus, là. Sugar Sammy, des bacs. Supposé faire 45 minutes, il y aura des 1h30. Tu sais, c'est toutes des affaires même, Laurent Paquin, toute la gang, Pat Grou, ils viennent roder. Fait que c'est comme un endroit, c'est comme un des hotspots, ça arrive nord.
Ah ouais, OK. Cool, je vais y aller. Je vais aller faire un tour si le temps me le permet. Puis, ils rentrent combien de personnes là-dedans?
150.
150, OK. Ça fait une belle foule quand même.
Oh ouais, c'est l'ambiance. Plafond bas, 12 pieds, petite chandelle, cabaret, toutes ces tables. Ah non, c'est mon salon, c'est mon salon.
C'est quoi la différence entre quand tu fais un show là versus quand tu viens faire un tour à Québec à la salle Albert Rousseau? Je veux dire, c'est quand même une grosse salle, mais j'ai l'impression que les gens sont un peu plus éloignés de vous autres. Tu sais, le crowd work que vous faites une fois de temps en temps, j'ai pas l'impression qu'il est pareil. T'sais, l'ambiance cabaret, il y a de l'alcool au travers, c'est un peu plus décontracté, c'est un peu plus relax, ouais. Versus la salle Albert Rousseau où les gens sont là, sont assis, puis si t'es bon à la fin, ils vont se lever pour te féliciter. Hein.
Oui, c'est ça. Mais tu peux quand même faire un peu de crowd work dans une grande salle, mais c'est une production. T'sais? Fait que tu fais ton show, tu donnes un show. Il y a des petits moments d'impro peut-être qui vont arriver ici et là, mais c'est vraiment comme le show. Fait que comparé à un cabaret, c'est tellement intime. C'est comme les gens en avant, là, quand tu t'es touches, là, tu mets ta main sur leur tête, là, c'est comme ils sont là. Là, fait que c'est ça que moi j'aime, ça, c'est comme les années d'animation que j'ai faites. C'était là toute mon expérience de crowd work parce que je suis tellement habitué à... Le show, il, en 30 secondes, il est déjà rendu à scène. Tu sais, comme on commence live. Là. J'arrive, c'est super, que pourquoi tu portes ce chandail-là? OK, fait que t'es un gars tout seul à quatre femmes. Okay, OK, ça va bien ton affaire, toi? Tu sais, fait que j'analyse tellement l'environnement et après ça, tout le long de la soirée, je fais des callbacks qu'on appelle comme sur les événements ou les gens que j'ai jasé avec. Tu sais, fait que ça, c'est comme si les gens, ils font partie du spectacle.
Ouais.
C'est ça qui est fun.
Puis, vous vous parez à toute éventualité, mais y a-tu des fois où il est arrivé des affaires, tu te dis, je pense jamais vivre ça un jour, là, un crowd work où ça vire super bien, où ça vire super mal, là, mais quelque chose, un élément qui est arrivé dans tes dernières années, tu te dis, hey, celle-là, il faut que je la raconte, là, je pensais pas que ça allait m'arriver un jour.
Ah, ben il y en a plein, puis c'est plat parce que, tu sais, il y a bien des humoristes qui mettent des extraits, genre de leur crowd work, tu sais, ouais. Sur Internet, tu sais. Puis, il y a tellement de moments, je suis comme, pourquoi ça, c'était pas filmé? Là, je pense une shot, là, écoute bien ça. Là. Il y a une femme en avant, right? Deux femmes sont assises là. Et il y en a une, elle se lève et elle est comme, veux-tu de quoi à boire? Je suis là, ça scène. Ben, je suis correct, j'ai ma bouteille d'eau juste là. Elle est comme, perfect. Je m'en vais chercher quoi à boire. Ben, allez-y. Puis là, elle drop, mon gars, puis elle fait split. Elle fait split, comme littéralement, là. Elle fait split entre la scène et les rangées. Puis elle fait split. Je suis là, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je fais split. Mais je le sais, tu fais split, mais pourquoi tu fais split? Elle dit, ben, t'es-tu capable? Je suis comme, non, je suis pas capable. Elle dit, je suis pas mal sûr que t'es capable. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça signifie, là, mais non, je suis pas capable de faire ce petit split. Puis là, elle s'en va, mais en se levant, à cause, elle porte des talons hauts. Ses chevilles sont en train de compter, mon gars. Puis elle s'en va, Fait que là, on est 600 personnes dans la salle. Puis là, je pars, je suis sur son cas 10 minutes de temps. Mais je dis à son ami, c'est qui cette petite folle-là? C'est qu'est-ce qu'elle fait là? Enfin, tu vois les cheveux, puis là, je limitais tout le long avec les cheveux qui cassent comme si c'était dans le vieux port de Montréal, qui marchait les briques en talons hauts, mon gars. Je suis un bon. Un autre gars qui manque une jambe en avant, là, je le niaisais. Là, je suis comme, OK, comment t'as perdu ta jambe? Il me dit un accident de bateau. Je suis comme, OK, moi, je pensais que t'étais un vétéran de guerre, si finalement, t'as juste une anecdote de marde. C'est juste des éléments de même, tu sais, comme, c'est tellement trippant, puis c'est ça qui m'a inspiré. Ben, c'est pas tout le monde qui peut faire du crowd work. Que là, je fais une captation le 28 décembre. Je fais deux shows le même soir, mais je fais une captation pour un show gratuit pour le monde sur YouTube.
OK.
Fait que Dave Godet crowd work. Parle-moi Dave. Fait que je fais un heure de crowd work. Aucune joke écrite.
OK. Ça, c'est un beau défi quand même.
Ah oh, ouais. Ah oh, ouais. C'est pour ça que comme ça va être le fun. Puis en plus, je fais ça dans mon salon au Patriote. Côté cabaret. Je fais pas ça dans une salle.
Puis quand
sans personnes. On filme ça tout à style Netflix. Go.
OK. Puis quand tu étais avec ta blonde au restaurant, parce que tu es un gars qui parle beaucoup, qui a beaucoup d'idées, tu jases avec tout le monde et tout ça. Tu des fois où ta blonde a dit là, reste avec moi, là?
Non, même ma blonde dirait que je suis quand même plate le jour.
T'es très relax. Oh, ouais, okay. Man,
très business. Toujours en train de penser. C'est marketing, OK, move, OK, si on peut faire ça de même, c'est tout. Puis non, je suis toujours. Ben ouais, quand on est en public, je suis social avec tout le monde.
Ouais.
J'inclus tout le monde. Je sais, il y a du monde qui me reconnaît constamment. Fait que je suis comme, hey, what's up? Je jase avec tout le monde.
Fait que t'es capable de t'arrêter.
Oh ouais.
Ouais. Ouais. Y a-tu des humoristes, parce qu'on parlait de tes influences quand t'étais jeune, y a-tu des humoristes aujourd'hui que t'aimes bien là, t'asseoir en salle puis juste les écouter aller pour les regarder travailler, que ce soit en Europe, au Québec ou encore aux États-Unis? Moi, je t'avoue, franchement, je pense que je te l'ai dit quand t'étais venu en studio, tu sais, moi, j'aime bien un Dave Godet, j'aime bien un Mike Ward, j'aimais bien dans le temps, là, c'est il a disparu puis il est revenu, là, mais un Daniel Lemire, tu sais, je tripais pas nécessairement sur les personnages personnage qu'avait créé Daniel Lemire. Je trippais plus sur Daniel Lemire quand il parlait d'actualité et tout ça. Ouais. En Europe, il y en a un qui me fait bien rire. Je l'ai découvert, tout comme toi, sur TikTok. Il a les cheveux longs blonds. Il a de l'air d'un bibliothécaire. Je ne me rappelle pas de son nom. Je sais qu'il était de passage au Grand Théâtre de Québec, mais ce gars-là a son propre personnage. Il n'est pas capable de se libérer de son personnage. C'est quoi son nom? Oh, ça va peut-être me revenir, mais lui, je pense qu'en Europe, ça va monter comme pas possible. Toi, y a-tu des humoristes de 2024 qui te font triper?
Ben, moi, c'est toujours classique, man. Dave Chappelle, Bill Burr. T'sais, ça, c'est quand. Moi, Bill Burr, surtout parce qu'il ose dire quand. Vraiment. Il nous met dans des situations où t'es comme, oh, c'est tellement déplacé, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est drôle, tu sais, mais il faut. Mais c'est comme edgy, tu sais, toujours sa limite. Là. Ça, c'est mon genre du monde. C'est comme à faire le spectateur, faire des backflips dans sa tête, tu sais, fâcher les femmes à ce point-là, ouais. Jouer, tu sais, la communauté LGBTQ, comme Dave Chappelle fait, puis les trans, puis comme. Yo, man, c'est comme scandale après scandale. Je suis comme, vous êtes malade.
Ouais.
Et ça c'est ce que j'aime. Mais sinon, comme les tops, je dirais que j'aime au Québec. Dominique Paquet, c'est Paquet. Là. C'est comme c'est le seul qui est capable de pogner une prémisse. Il joue tous les personnages dans cette prémisse-là, mais il n'y a pas de punch.
C'est
comme les punchs, c'est juste. Il fait un setup, puis là, il joue ça. Comme là, il est au restaurant chinois. OK, c'est au restaurant chinois, puis là, il fait là. Juste tout comment que. Dans son imagination. T'sais, pis c'est des jokes que tu peux écouter 15 fois et la trouver encore bonne.
Ouais. J'ai retrouvé le nom de mon humoriste français que j'aime bien regarder sur TikTok. C'est Paul Mirabel.
OK.
Tu le connais pas? Tu l'as pas vu passer, lui?
Non, bon. Je vais aller le checker sur TikTok.
Vu que je te le dis maintenant, ça va embarquer dans ton algorithme. Là, les Chinois nous surveillent. Fait qu'ils vont dire, oh, ils ont parlé de Paul Mirabel. Fait que je vais y envoyer ça dans son algorithme. Mais ce gars-là, je me demande comment il va faire pour sortir de son personnage parce que sérieusement. Si c'est 60 minutes où il parle comme ça, les gens doivent pisser à terre. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Tu parlais de Dave Chappelle.
Comme Bellefeuille aussi, c'est un personnage.
François Bellefeuille, ouais.
Il a commencé avec ça en route, c'est le faucon. Puis là, il a contrôlé sa voix, puis son énergie, puis son show. Il était bon, là, ouais. OK, fort.
Tu parlais de Dave Chappelle tantôt, les sujets qui abordent. J'ai l'impression que c'est des sujets qu'on peut utiliser aux États-Unis, mais au Québec, ça serait mal vu pour un humoriste. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ben, dans mon show maîtresse, j'ai fait un sketch où je parlais des trans. Puis comment que je disais, l'exemple que j'utilisais de la blague, c'est... La blague, en fait, c'est que je parlais d'une boxeuse, OK? Qu'au lac Saint-Jean, elle apprend une heure avant son combat, ça passe aux nouvelles, tu sais, que ouais. Son adversaire, c'est un homme qui s'identifie comme une femme, right? Qui est devenu une femme. Puis tu les vois aux nouvelles où tu vois comment tout le monde est politically correct dans cette province-là. Toujours peur de dire de quoi de croche. Tout le monde, c'est des bitches, OK? Moi, je vais dire, il y a beaucoup de bitches au Québec.
Ouais.
Et là, ils sont là. Ben, c'est ça, là, tu sais, on juge pas son orientation. Non, mais on a peur qu'elle se fasse blesser. Puis moi, je suis là. Ben, j'espère, man! Qu'est-ce que c'est ça? Il y a personne qui dit non. Vous laissez ça aller. Moi, je suis un homme, je veux même pas me battre avec un homme. Ça fesse fort en estime. Je me suis battu dans la vie, ça fesse un estique de temps. Je suis quand même, si t'enlèves ton pénis, là, t'es juste plus aérodynamique dans le combat. Comprends-tu? Puis là, comme je fais toute la mise en scène de ça, puis là, je fais le contraire. Fait que je dis ça, c'est une vraie situation. Puis là, les gens, ils viennent pas fous. Mais si tu veux rendre le monde fou, ce que tu fais, c'est dire, moi, je lâche l'humour, puis je m'en vais dans les UFC demain. OK? Je m'en vais dans les UFC. Mais j'apprends une heure avant mon combat, mon adversaire, c'est une femme qui s'identifie comme un homme. Et là, le monde va me demander, Dave, veux-tu annuler ton combat? Moi, je vais dire, fuck no! Qu'est-ce que ça veut venir dans mon monde? Bring it on, bitch! J'ai encore laissé une gang. Puis là, j'y vais. Point ça y est. Coup de dans la face. Coup de pied dans le pénis, même pas un vrai, à part un demi-point. Puis après ça, je la mets dans un chokehold. Facile, pas de pomme dedans d'arrêter mon bras. Et là, man, bon gars, et là, je tape, je gagne. Là, le monde va se dire deux choses. Et c'est là, le bout dans le show que le monde sera poste. Je dis, il se passe deux choses. Le monde va se dire un. Meilleur combat de 4,3 secondes que j'ai vu de ma vie. Deux, check le batteur de femme.
Oui.
Et là, quand je dis, et là, je regarde toute la foule, puis là, les lumières sont toutes allumées. Puis je dis, là, je regarde vos faces. Il y en a plusieurs qui rient, d'autres qui savent même pas s'ils ont le droit de rire. Puis je dis, tu peux rire, gang. C'est une joke. Mais tu vois comment dans la société, on n'est pas prête encore pour rien de ça. C'est malade. Ouais. Puis en passant, s'il y a du monde qui sont trigger, elle n'existe pas, la fille que je viens d'en crisser une. C'est fictif. Elle n'existe pas. Juste à rappeler, là, regarde, c'est de l'air. C'est de l'air. Fait qu'arrête d'être fâché pour de l'air. T'sais. Fait que c'était juste pour comme montrer ce point-là, comment les gens. On a peur. On vit dans une société de peur, man.
Ça mais Dave, est-ce que c'est propre au Québec, ça, qu'il y a des choses qu'on pense, mais que nécessairement on ne veut pas le dire, puis parce qu'on sait qu'il y a 2-3 % de la population qui vont être outrés, puis qui vont essayer de nous canceller. Je parlais avec Guy Nantel hier, puis le speech de Guy Nantel là-dessus, là, sur le free speech au Québec, c'est. Avec l'humour, on peut tout dire. Puis moi, je me rappelle des histoires cauchemardesques là, de Mike Ward qui l'avait échappé sur Cédrica Prévencher, puis ça avait vraiment mal viré. Puis je me souviens bien, il y avait une joke, c'est Hells Angels aussi qui n'avait pas passé avec Mike Ward. Mais c'est-tu uniquement au Québec, ça, où il y a des sujets qu'on peut pas discuter parce qu'on pourrait se faire canceller?
Il y a l'expression « too soon », ça existe. Tu sais, faire... C'est des jokes, disons, comme World Trade Center, disons, States. C'est pas mal sûr que personne faisait des jokes là-dessus, là, tu sais, au début.
Non, ils ont cancellé des chansons, rappelle-toi.
Et je pensais que Mike, tu sais, Cédrica, je pense l'affaire qui vient jouer dans la cause, c'est parce que c'est un enfant. Tu sais, fait que quand t'es un parent, c'est comme moi, c'est comme instantané, t'es né avec ce côté protecteur-là, puis t'es comme, oh non, OK, non, ça tu sais, ça se fait pas. Fait que, tu sais, quand t'es un humoriste qui n'a pas d'enfant, ben, tu peux pas comprendre ça. T'sais, ça reste une joke. La joke est bonne, mais... Oh,
tout soon. Ouais, je comprends.
Gala, télé, tu sais, dans un cabaret, OK, ça passe. Mais tu mets ça sur Internet, oublie ça. C'est perte de contrôle.
Puis ça, c'est qui sont...
quelque chose vraiment sur Internet, hors contexte, mais comme avec le petit Jeremy, la même affaire. Là,
ouais. Puis toi,
ça, c'est hors contexte c'est... d'une salle.
Puis c'est qui est ton gauge à toi, tu sais, quand tu dis, bah, regarde, moi, je pense à plein d'idées, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est-tu ta conjointe qui dit, ben, moi, j'irai pas là ou vas-y, ça va être super bon. T'as-tu quelqu'un à côté de toi qui te dit, vas-y ou vas-y pas?
Comme disons, la joke que je viens de faire, là, right? C'est la boxeuse, c'est trash, right?
Ça, c'est l'idée ça, de ta blonde.
J'ai même demandé à mes amis gays. Tu sais, si je vais trop loin, tu sais, je peux-tu fâcher, disons, une communauté avec un mec de même, tu sais. Puis il me dit, c'est edgy, mais tu trouves le kit. Puis il dit, c'est juste la manière que tu l'amènes à la fin en disant, là, vous allez dire deux choses, 4.3 secondes. Puis là, tu sais, il dit, OK, là, c'est parfait, tu sais. Mais c'est comment, c'est très dur jouer sur des lignes minces de même. Ben ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Ma bouche a arrêté. Désolé. Ouais,
ailleurs, la ligne ils vont.
Moi, mon genre, c'est. Moi, je suis comme. Tu me dis non, moi, je vais dire, moi, c'est oui. Tu sais, mon côté rebelle. Tu me dis, pas en pas. OK, hey, là, tu viens d'ouvrir un can of whip ass. Là. Moi, je vais aller. Moi, j'ai pas peur. Je suis comme. Tu sais, c'est quoi le pays? On va me cancel, quoi. On va être fâché sur moi sur Internet. Ou. Tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est comme. Tu vas m'oublier dans le canal Twitter. Là. Après ça, tu vas voir un vidéo d'un papillon qui rentre dans un screen. Tu vas dire « Oh, le pauvre papillon! » Tu as complètement oublié ce que j'ai dit. T'sais.
Mais tu sais, on parlait tantôt de la communauté LGBTQ+2, puis toi, tu es allé les voir, certains que tu connaissais, puis ils t'en ont parlé. Mais bien souvent, c'est des gens qui font pas partie de ces communautés-là qui vont comme surréagir sur les choses qui se disent dans les médias ou qui se disent à la radio ou encore pendant des galas d'humour. Donc... Ouais, tu sais, apprendre avec... Bon, on peut considérer ces gens-là, bien entendu, mais des fois, il faut juste y aller pour que finalement, on se rende compte que c'était pas si pire que ça. Hey, t'es de passage à la salle Albert Rousseau, si je me trompe pas, dans quelques jours, le 21 octobre, c'est ça?
Oui, puis il reste encore 400 billets à vendre, fait que...
Il reste 400 billets?
Ah, ouais.
OK.
C'est dur de vendre des billets à cet incite, là. Tu le vois, là. Ouais. L'économie, là, le monde, on est tout à la gorge, man.
Ouais, là, je vois que les gens veulent être proches de toi, mais il reste encore des billets. Je pense que je vais y aller. Écoute, je pense que je vais y aller. On va se croiser là-bas. Je vais emmener ma conjointe. Elle t'aime bien. Puis on va passer une super de belle soirée. Est-ce que tu me permets de faire une courte pause? On revient dans 2 minutes, mon ami.
Marceau, le soir. Le garage à Dan Garon a fait bien du ménage pour vous accueillir dans son garage tous les vendredis 18h. Il vous pousse les plus grosses tonneries qui se démoderont jamais. Un peu comme lui. Vous allez peut-être même entendre du vieux stock qu'on joue pas ailleurs dans la programmation. Le garage à Dan. Tous les vendredis 18h.
Boulevard 101.
À Boulevard 102.1 pour l'Action de grâce, sors ta chemise à carreaux pis ta veste de laine, on lance la saison du cocooning avec le spécial acoustique du Weekend Rock and Chill.
Toute la fin de semaine, on vole les chansons d'Audrey Pinchot pis on en pitch un peu partout dans le boulevard du rock pis dans le volume à planche.
Du Radiohead acoustique.
Du piano sur du The Offspring. Pis même des covers de Johnny Cash.
Toute la fin de semaine, on sort les guitares acoustiques puis on se la joue rock and chill.
Présenté par Identité Québec. Faites votre demande de pardon et soyez financé sans intérêt en une seule étape. IdentitéQuébec.ca. À un clic de votre liberté.
Salut la gang, c'est François Baudry, chroniqueur web de l'émission Gravel dans le retour. T'aimes mes chroniques? Tu veux en savoir plus sur le monde numérique? Rends-toi sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube.
Prolongez l'été avec le meilleur de la restauration sur Grande Allée. Un bon cocktail, un tartare, une ambiance incontournable? C'est l'atelier. Savourez un repas entre amis ou réservé pour votre party de bureau. Et pour une expérience terre-mer incomparable à Québec, c'est au restaurant Ophélia. Laissez-vous séduire par nos plats soigneusement préparés et notre carte de vin d'importation privée. Venez profiter de nos terrasses couvertes et chauffées. L'été n'est pas fini à l'Ophélia et l'atelier. On se donne rendez-vous sur Grande Allée.
Chez Laval Volkswagen, on veut toujours le meilleur pour vous. Profitez d'un taux de financement de 1,99% jusqu'à 60 mois et d'un rabais pouvant aller jusqu'à 1 000 $ sur votre prochain Volkswagen Taos. Avec le Taos, vivez la conduite allemande. Vous pensez Volkswagen, pensez Laval Volkswagen.
Tu es débrouillard, ouvert d'esprit et fais preuve d'initiative? Hébergement Rive-Nord te veut dans son équipe. Depuis 2015, Hébergement Rive-Nord accueille des résidents présentant une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme. Notre équipe dynamique est composée d'éducateurs spécialisés, d'intervenants en délinquance et plus. Salaire compétitif à partir de $22.75, horaires flexibles, assurance collective et soins dentaires. Chez Hébergement Rive-Nord, on prend soin des autres et des nôtres. Postule sur l'onglet carrière au hébergementrivenord.com.
À ceux qui affirment que l'aéroport de Québec est trop petit, nous voulons vous dire que...
Ça ne lui empêche pas d'offrir une multitude de vols directs vers le sud, l'Europe et les États-Unis. Contactez votre conseiller en voyage ou visitez décollerdequebec.ca. YQB, le plus petit des grands aéroports.
Des bas bruns, une cravate? Pas vraiment. Chez Mallette, on porte surtout plusieurs chapeaux. Fiscalité, notariat, juridique, actuariat, intelligence d'affaires, immigration. Découvrez tous nos services au mallette.ca. Mallette, des comptables et bien plus.
Faire le clown en intimidant un employé sur son lieu de travail, ça ne fait rire personne. L'incivilité et les infractions n'ont pas leur place pour les employés de la ville, ni pour la population. Arrête ton cirque. Témoin d'un incident ou d'une urgence, faites le 911. Un message de la Ville de Québec.
Hello.
Allô, comment ça va? T'as l'air fâché.
Ah, ça va mal. Ma plus vieille a des cours en ligne, puis l'Internet coupe tout le temps.
Attends, là, je t'arrête tout de suite, là. Abonne-toi chez Oricom. Leurs connexions fibres sont pas chères, tu seras pas déçu, puis tes ados, ils bouderont plus.
Ah, t'as raison sur toute la ligne. Hey, tu m'as convaincu. Je règle ça aujourd'hui.
Changez pour Oricom dès maintenant. C'est simple et rapide, comme la fibre. Oricom.ca.
En 2024, La Tulipe est devenue le détaillant qui offre la meilleure expérience client au pays dans le domaine des sports et plein air, selon l'étude WOW de la firme Léger. Oui, on est fiers chez La Tulipe, mais on est surtout reconnaissant envers vous, les clients. C'est pour ça qu'on vous invite au Blitz du long congé, au cours duquel on redonne à nos clients. Dès que vous achetez pour $125 avant taxe, on vous donne un rabais de $20. Jusqu'à lundi, La Tulipe vous dit merci dans ses 3 magasins et en ligne.
C'est la grande vente sous la tente chez Avalanche. Du 10 au 14 octobre, des méga rabais vous attendent à nos succursales de Sainte-Anne-de-Beaupré et Wilfrid Hamel. Économisez jusqu'à 70 % de rabais sur les vêtements d'hiver, manteaux, pantalons, accessoires de ski et profitez d'une remise de $25 sur la location de ski junior à $99. Ne manquez pas l'occasion. La grande vente sous la tente, c'est du 10 au 14 octobre chez Avalanche. Des vêtements chauds pour un hiver agréable.
Yuzu Sushi présente les Pop-Up Sushi. 4 sushis totalement éclatés avec bonbons pétillants, popcorn, carré de Rice Krispies ou tofu saté. Une expérience surprenante, osez les essayer pour un temps limité. Yuzu, c'est toujours bon.
C'est la liquidation totale chez Nissan. Et le mot total n'est pas accessoire ici. Tous les modèles Nissan 2024 doivent partir. C'est votre chance d'obtenir un taux de location avantageux sur le Nissan Kicks et sur le Ariya 100% électrique et de louer la Sentra et le Rogue à partir de 0,99%. Ou vous pourriez profiter d'un crédit de 800 $ sur des pneus d'hiver sur modèles et versions sélectionnés. De plus, les clients admissibles ont droit à un boni de fidélité de 500 $. La liquidation totale, ça se passe maintenant. Venez-vous-en. Jusqu'au 31 octobre, sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent, détails chez Nissan.
Saviez-vous que Yannick Marceau ne mange jamais pendant son émission, qu'Audrey Pinchot se désorganise lorsqu'elle parle d'animaux et que la lecture de chevet préférée de Jeff Fortin, c'est les rapports annuels? Maintenant, vous le savez.
Puis on parle aussi d'affaires pertinentes.
Boulevard 102.1, tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Marceau, le soir.
Ce soir, on est avec l'humoriste Dave Godet, la légende qui va être de passage à la salle Albert Rousseau le lundi 21 octobre. Donc, ça s'en vient, sera là à 20h. Il reste encore des billets, ça vous tente d'y aller. Donc, tu nous présentes ton spectacle, Dave, la légende. Pourquoi t'as appelé ça la légende?
C'est le monde qui m'appelait de même.
Ouais.
Tu sais, dans tous les commentaires de podcast, tout ce gars-là, c'est une légende.
C'est pas tes ex. Tes ex t'appellent pas de même.
Ouais. Ça a commencé de même. Je suis comme, Kim, sais-tu quoi? Je pense que je suis capable de vivre avec ce titre-là. Et c'est pas mal. Au début, le monde était comme, qu'est-ce que c'était audacieux, pas à peu près, tu te prends pas pour la marde. Puis aujourd'hui, ils sont comme, OK, all right, c'est bon. J'ai amené mon choix à un niveau cabaret, à un aréna tout seul. Fait que ça, c'est assez légendaire. Fait que si quelqu'un n'est pas content avec ça, ben mange-moi le cul.
mais c'est ça, c'est les autres qui t'appelaient la légende, c'est pas tes anciennes blondes, là.
Non. Hey, il n'y avait rien de légendaire, là. Oh boy, hey boy. Hey.
Puis les idées que tu as eues, qu'est-ce que tu nous racontes pendant ton spectacle La Légende?
À La Légende, c'est beaucoup d'improvisation. Fait que, c'est de vivre très bien le moment présent, genre avec les spectateurs. Après ça, c'est des anecdotes, c'est la musique. Je joue du piano dans le show. Je nous fais revivre les meilleures années des années 90-2000, comment que c'était le nightlife avec toute une mise en scène. Après ça, il va y avoir une girafe qui passe en scène. Là, le monde va dire pourquoi il y a une girafe, mais je ne l'accuse jamais, il fait juste passer. je dirais que c'est pas mal le show le plus complet de performance qu'il y a côté show au Québec. C'est comme vraiment un show de performance.
Ouais. T'es-tu constamment en écriture, Dave Godet?
Non.
Non?
Pas en tout. Je suis plus en mode... quand j'ai pas un bon flash, je fais une vidéo ou quelque chose de même tout, mais je suis vraiment... pas en ce moment en phase écriture, je suis plus en phase place belle, le marketing derrière tout ça. C'est vraiment ça le plus tough. Là,
ah ouais?
Je suis pas en mode joke encore. Je vais être en mode joke tantôt, mais je pense que c'est comme des aspects. Je vais être 3 mois en écriture, 3 mois business, 3 mois c'est ça. C'est comme ça mon cerveau.
Puis est-ce que tu dois t'isoler ou tu es capable de vivre au travers de la faune sans aucun problème quand tu étais en période d'écriture?
Ouais. Moi, je suis capable. Moi, c'est souvent, c'est je prends ma douche, puis dans la douche, d'habitude, je suis capable d'écrire un 10 minutes tout seul. Quand je suis chez, j'ai un show le soir même, puis il faut que je fasse de quoi de nouveau, ben je me parle tout seul dans la douche, puis ma blonde pense que je suis fou. Mais là, je suis comme, hey, ça va bien, comment? Okay. Oh, ben là, ça, hey, c'est-tu moi, tu sais, des ouragans, hein? ça va faire ça à Floride, hein, puis tout le reste, hein? C'est comme, je pars juste une chaise là-même.
Je vais rentrer un peu dans ta vie personnelle, puis tu m'en expulseras si tu le désires. Avoir un enfant, ça a-tu changé un peu ta vie?
Ça a tout changé.
Ouais.
Tout a changé pour le meilleur. Motivation, toute l'équipe. J'ai pas le choix de devenir mère. La mère, c'est, avoir un enfant, là, c'est, ça m'a rendu d'être la meilleure version de moi-même.
Ouais. Puis est-ce que, parce que quand on a une conjointe, bon, ça nous dompe pour quelqu'un de plus riche, pas pour quelqu'un de plus beau, là, tu sais, pour toi puis moi, ils pourront pas trouver mieux ailleurs, mais quand ils nous dompent pour quelqu'un de plus riche, regarde, on va avoir de la peine, puis pendant quelques jours, on va passer à d'autres choses, mais un enfant va toujours être là, va toujours dépendre de nous. Puis on arrive avec une responsabilité des fois qu'on ne s'attendait pas. T'sais, moi, j'ai longtemps été seul dans la vie, puis du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec un enfant. Là, maintenant, j'en ai deux, fait que deux paquets de problèmes. Mais je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Là. Je ne peux plus ne pas donner de nouvelles pendant une semaine, deux semaines. Ça a créé mon camp dans le sud et tout ça. C'est fini, ça. Ça a-tu été un deuil pour toi qui avait une vie quand même assez olé-olé?
Non, pas tant. Pas tant parce que je fais quand même mes shows, je fais ce que j'aime déjà. Fait, quand je pars en tournée les fins de semaine, mais c'est quand ben, j'étais avec mes chums, toute l'équipe, on joue à Magic, mon gars, là, on est des nerds. Là. Toujours aux cartes Magic. Je te dis, T'sais, même sur mon mur, je collectionne des cartes Pokémon. Là. C'est comme, j'ai ce côté-là nerd en moi. Fait, j'ai juste comme transféré, genre mes boss. C'est juste des soirées différentes. T'sais. Mais sinon, non, je m'ennuie pas trop du olé olé. Je l'ai vécu tellement longtemps. J'ai tout vécu. La musique est pareille, l'alcool est pareil, tout est pareil. T'sais.
Fait que c'est pour ça que c'est tranquille aujourd'hui, parce que tu l'as déjà vécu, puis aujourd'hui, tu as besoin d'autres choses. OK. Quand tu vas dans des salles au Québec, là, c'est quelle est la meilleure salle au Québec pour ce qui est de l'humour? Bon, tu m'as parlé de ton cabaret tantôt, je comprends que c'est une excellente salle. Y a-tu d'autres salles où tu dis, OK, à cet endroit-là, c'est quelque chose d'exceptionnel?
Albert Rousseau. Ça reste, je pense, la salle la plus mythique au Québec. C'est une des plus grandes salles. C'est 1300 personnes quand tu remplis ça. Il y a une énergie... un regard tellement comme théâtral, quand t'es sur la scène, tu vois toutes les bandes rouges, là. Mais tu sais, rouge vif, là, tu sais. Ouais. C'est comme toute la... C'est ça, c'est comme tu revis comme si t'étais dans les années 1920. Tu comprends, là, il y a quelque chose de magical, de magical. Je sais pas comment dire, mais magical, c'est ça le mot? Ouais, j'imagine.
Magique, anyway, magique.
Ouais, magique. Il y a quelque chose de très magique avec cette salle-là. C'est que, moi... je vais crever dans cette salle-là, si possible.
Puis est-ce que tu dois t'adapter dans la ville où tu es? T'sais, y a-tu des références, des fois, que tu fais pour Québec, Montréal, Trois-Rivières, Drummondville? De mémoire, et je pense que j'ai vu un de tes shows. C'était-tu à la salle dans Polyvalente, Benoît Vachon, chez Ovacine? Je t'ai-tu vu là? T'es allé chez Ovacine à Sainte-Marie-de-Beauce?
Oui.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est là que j'avais vu un de tes spectacles. Mais cette salle-là aussi est exceptionnelle, mais il me semble que tu avais fait une joke à Sainte-Marie, puis je me suis dit, ah, oh, Colin, il s'adapte.
T'as pas le choix.
T'as pas le choix.
Tout le temps, mais je fais tout le temps des jokes s'il y en a à faire. Là, comme tu vas en Beauce, c'est comme. Tu sais que t'es creux quand t'as vu 33 églises en t'en venant. C'est comme pic, t'es creux. Là. Tu sais, tu peux partir de site. Il y a un autre monde. Là. La planète est énorme. T'as pas besoin de vivre site. Mais sinon, ouais, tous les environnements. Mais je dis, ouais, Albert Rousseau, Club Soda. C'est pour le côté rock, là. Club Soda, c'est avec tous les balcons, là, la mise à main, la manière que c'est fait, là. Club Soda, c'est quand même épique. Le nouveau théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme.
Ah oui?
C'est même un Albert Rousseau, mais juste un petit peu plus petit, genre, c'est 900 personnes. Mais écoute, les gens de Saint-Jérôme, c'est rock, là. C'est rock and roll aussi, ça, j'aime bien. Quelle autre salle, ce qui m'a vraiment marqué, que j'ai bien aimé, là? Ben, l'Assomption, t'sais, c'est tout l'universal, l'acoustique, c'est tout ça. T'sais. Fait que les salles sont beaucoup améliorées comme avec le son. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis moi, je joue beaucoup de musique dans le show. Fait que c'est comme, tu l'entends, la clarté. Là, je fais du beatbox, n'importe quoi, la bass, les subs. T'sais, OK, là, on donne un show. Là,
tu parlais de la Place Belle tantôt. Y a-tu d'autres choses que cet objectif-là que tu veux atteindre un jour? Je sais pas, est-ce que tu aurais intérêt à aller faire un tour vers l'Europe, vers les États-Unis? C'est quelque chose qui t'intéresse?
Ben là, tu vas l'avoir en exclusivité, mais ouais, la prochaine tournée, ouais. On fait. Mon but, c'est le prochain show, on sait déjà qu'est-ce qu'on fait. Ça va être mélange humour, cycle de soleil visuel. C'est comme le monde va juste. Ça va être, je pense, notre plus grande production où que les gens vont juste en avoir plein la vue. Et le but, c'est que je fais le Québec, mais je peux juste faire des grandes salles avec ce show-là à cause du décor. Mon but, c'est de vendre 100 000 billets. Comme là, j'ai comme dépassé 25 c'est énorme, tu sais. Mais le prochain show, c'est le bouche-à-oreille, le monde va dire, OK, c'est comme une expérience. C'est comme Deadpool. T'sais, tout le monde veut voir le premier Deadpool, tu sais. Fait que ce show-là, tout le monde, comme, ils vont voir ça. Puis mon but, c'est, même si je ne ferai pas 100 000 billets, là, on m'en fout, là, mais le but, c'est que je fais un an au Québec, puis après ça, je fais toutes les arénas à travers le Canada.
C'est ton objectif.
On est déjà prêts mentalement. J'écris le show en anglais et en français. Fait que quand on va partir dans l'Ouest canadien, on va faire les grandes salles, puis après les grandes salles. Le but, c'est que je tourne pendant 3 ans. Je vais être en tournée 3 ans, puis après, à la fin de la tournée, je fais toutes les arénas, comme une arena tour canadienne. Je vais être le premier au Canada à faire ça. Donc, j'ai rempli toutes les arénas de hockey jusqu'à là, après ça, Place Belle, puis le Centre Vidéotron à Québec.
Ah, je te le souhaite. T'es un maudit bon gars. Ça fait 2 fois que je te rencontre, puis je t'aime bien, puis les auditeurs t'aiment bien aussi. Puis moi, je t'ai découvert pendant la pandémie sur TikTok. T'avais l'air d'un bon gars avec des maudites belles valeurs. Puis des fois, ben, tant aussi longtemps que t'as pas rencontré la personne, tu le sais pas. Puis t'es à peu près le même gars que tu nous as présenté pendant la pandémie. Puis ça, c'est une force que t'as. Donc, t'es de passage à Québec le 21 octobre prochain, la salle Albert Rousseau. Il reste encore quelques billets. C'est autour de 40 $. Donc, on va se croiser là, cher ami, si si tu rencontres ton public à la fin, là, je vais aller te serrer la pince.
Ça va je fais des câlins, moi.
Ça va me faire plaisir. Sinon, si on veut en savoir plus sur toi et tes spectacles, on va faire un tour sur davegodette.com. Je te souhaite de passer une belle soirée. Merci beaucoup pour t'être prêté au jeu pendant 60 minutes, Dave.
Eh bien, un gros merci de l'invitation et au plaisir de te voir la semaine prochaine.
Yes, on s'arrête là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 102.1. Puis on se reparle demain 10h pour ce qui est de l'open mic. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Spécialiste et expert en implants dentaires depuis 25 ans, faites confiance au Dr Steve Bernier. À Lévis, Québec et à Saint-Georges. 418-835-5858.
Le Dodge Hornet RT hybride électrique rechargeable, c'est le meilleur des deux mondes. C'est la combinaison entre le moteur à essence pour les longs voyages
et le moteur électrique pour les courts.
573 km d'autonomie combinée
et 53 km d'autonomie électrique.
Le meilleur d'ici
et le meilleur de là.
Pour un véhicule qui est tout, sauf